pour certains, la fête des mères, c'est la fête de la vie, OK? À cause de la naissance, que dans le fond, c'est les mamans qui donnent vie. Pour d'autres aussi, ça va être la fête de la femme. On célèbre l'aspect que Dieu a créé la femme, qui par elle, les enfants viennent au monde. Mais c'est sûr que c'est une belle fête. Hein? Mais comme je disais tantôt, c'est une fête de joie, mais parfois aussi c'est une fête qui peut faire mal au cœur de certaines femmes. Et la femme qu'on va regarder ce matin dans les Écritures, même si je sais qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la fête des mères, mais je sais aussi que le fait qu'elle n'était pas mère lui faisait très mal au cœur, parce qu'elle voulait tellement avoir des enfants. Moi, j'ai un ami qui m'a dit à un moment donné que sa femme lui a dit, « Chérie, cette année, c'est la dernière fête des mères où je n'ai pas d'enfants. » Et puis, ils ont adopté, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir des enfants. Mais ça lui faisait tellement mal au cœur à cette sœur chrétienne et les amis qu'on connaît, que lors de la fête des mères précédente, elle avait partagé son cœur comme ça à son mari. Et vous allez voir dans le texte qu'on a ce matin, c'est ça qu'on va regarder, le cœur d'une mère. À quoi ça ressemble, le cœur d'une mère? Et cette mère-là, bien, elle s'appelle Anne. Et on voit le texte dans 1 Samuel 1, des versets 1 à 20. Et on va voir dans ce texte biblique que Anne, dans le fond, elle avait un cœur d'une femme engagée. Elle avait aussi un cœur d'une femme qui était humble et elle avait un cœur aussi d'une femme qui était déterminée. Et c'est ce qu'on va justement regarder pour définir ce matin le cœur d'une mère. Et je vais vous inviter à prier avec moi avant qu'on rouvre les Écritures. Seigneur Jésus, merci pour toutes ces mères que tu nous as données. Merci pour chacune de nos mères, parce que si on est ici, c'est parce qu'on a eu une mère. Et qu'à travers elle, tu nous as donné la vie, Seigneur. Et pour certains qui sont ici, peut-être même à travers elle, tu nous as permis d'entendre parler de toi qui es la vie éternelle. Et à travers son témoignage, on a pu entendre l'Évangile et aussi avoir la vie éternelle. Et Seigneur Jésus, à travers chacun de nos moments, tu as voulu aussi communiquer certains aspects de ton cœur à toi et qu'à travers chacun de nos moments, on a pu goûter à des choses qui ont fait du bien à nos vies. Et pour ça, Seigneur, on veut te dire merci. On veut te dire merci de ton plan, dans la façon que tu as fait les choses, que tu as créé l'homme à ton image, avec des caractéristiques de ton caractère et de ta personne, et que tu as créé la femme à ton image, avec d'autres caractéristiques de toi, de ton caractère et de ta personne, et que les deux font une seule chair, et que les deux sont l'image de toi, ô Dieu. Et pour ceux d'entre nous qui avons eu la bénédiction d'avoir une mère tout au long de notre vie, et peut-être certains l'ont encore aujourd'hui, nous te disons merci. Donne-nous, Seigneur, d'être reconnaissants pour la mère que tu nous as donnée, malgré ses imperfections, malgré les choses qu'on aurait peut-être aimé avoir et qu'on n'a pas reçues pour toutes sortes de raisons. Mais tu as quand même mis une mère dans notre vie et on veut t'en rendre grâce. Et pour certains, Seigneur, qui ont eu par adoption cette mère, on veut te remercier d'avoir mis à cœur à ces mères d'adopter et de faire de ces enfants leurs enfants et qu'il n'y a pas de différence aucunement, comme toi tu nous as adoptés et que nous sommes tes enfants. Seigneur, ton plan est au-dessus de nos pensées. Élargis nos cœurs pour que nous puissions être comme toi, Seigneur Jésus. et que nous puissions, à travers cet amour que tu as démontré d'une façon tellement extraordinaire, qu'on puisse aussi aimer. Merci, Seigneur, de nous avoir créés pour être aimés et pour aimer. Et merci que nos mères ont été les premières dans nos vies. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Maintenant, j'aimerais brièvement, avant d'aller au texte et de parler des trois caractéristiques du cœur de mère de Anne, vous donner un aperçu du contexte dans lequel Anne vivait. Je pense que c'est très important. Et on pourrait dire que ce contexte-là peut ressembler un peu au nôtre ici au Québec. Mais ça dit ceci, par exemple, dans 1 Samuel au chapitre 3, donc un petit peu plus loin que là ce qu'on va regarder ce matin. Mais au chapitre 3, verset 1, ça dit ceci. « À cette époque, et l'époque dont il est question ici, c'est celle des juges, l'Éternel parlait rarement aux hommes. » Et vous vous souvenez du dernier chant qu'on a entendu ce matin de Sophie Arbour? Hein? « Parle-moi, Seigneur. » Mais ici, ça dit, « À cette époque, au temps des juges, l'Éternel parlait rarement aux hommes. » Et les révélations que Dieu leur montrait n'étaient pas fréquentes. Pourquoi? Bien, si on va dans le livre des juges, on lit un verset qui est un verset clé. Et le livre des juges termine avec ce verset pour dire tout ce qui vient d'arriver dans le livre des juges est le reflet d'une vérité qui est celle-ci. Au temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Autrement dit, les hommes ne portaient pas attention à ce que Dieu avait à dire. C'est comme si, pour une raison, les hommes ne s'intéressaient plus à Dieu en Israël au temps des juges. Chacun était occupé à faire ce qui lui semblait bon. Chacun décidait, aujourd'hui, je vais faire ce qui me semble bon. Aujourd'hui, je ne vais me préoccuper que ce que me semble bon à mes propres yeux. J'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, j'ai pas envie de faire ceci, j'ai pas envie de faire cela, donc je fais ceci qui me tente et je fais pas ceci qui me tente pas. C'est ça que ça veut dire. Donc à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que les gens ne consultaient pas l'Éternel. C'était pas du 100%, là, mais majoritairement, ce qui caractérisait l'époque des juges, c'est que chacun était préoccupé par son agenda personnel. Et il n'avait pas de temps pour consulter l'Éternel. Il ne se préoccupait pas tellement de ce que Dieu avait comme agenda pour leur vie au quotidien. Et là, on arrive à ce verset qui nous donne aussi un peu le contexte dans lequel Anne est. Donc, elle est dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de révélations, il n'y a pas beaucoup de paroles de l'Éternel qui sont entendues. Donc, il n'y a pas beaucoup de communication, de prédication, de révélation sur ce qu'est la volonté de Dieu. Et chacun semble être préoccupé par ses petits oignons et ses petites affaires personnelles. Et là, ça dit ceci. Il y avait un homme de Ramatam, Tsophin, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, qui était un Lévite, un fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsu, ils ont les noms, hein, qui lui était un Éphraïmite. Bon, on a passé le plus dur, là. Une chance que c'est pas plus long que ça. Mais regardez bien. Cet homme Elkana avait deux femmes. Vous vous souvenez? chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors lui, il avait deux femmes, donc il était bigame, polygame, mais au moins bigame, parce qu'il y en a deux, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait la bénédiction d'avoir des enfants, mais Anne n'en avait pas. Donc, Anne se retrouve dans une situation pas idéale. Premièrement, elle est dans un couple, une famille bigame, où il y a deux femmes. Et malheur du comble, c'est que sa rivale, elle a des enfants, puis Anne, elle n'en a pas. Fait que Pénina, en anglais, on dit « she's a pain in the neck ». Elle est vraiment pas un cadeau pour notre Anne. Mais regardez bien ce qui se passe. La première chose qu'on voit de Anne, et c'est assez surprenant, dans les circonstances, quand on comprend un peu dans quoi qu'elle évolue, qu'elle ait un cœur aussi engagé envers son mari. Parce que ça dit qu'elle était aimée par son mari et elle aimait son mari. Ils ont tous les deux un engagement spirituel. Ils partagent la même passion pour Dieu. Alors, Anne, elle a cette bénédiction, malgré le fait qu'il est bigame, ce qui arrivait à cette époque-là, à l'occasion. Mais tous les deux ont une même passion pour Dieu. On lit ceci au verset 3 de 1 Samuel 1. « Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, qui en passant n'étaient pas des exemples, sacrificateurs de l'Éternel. Chaque année, elle allait adorer Dieu avec son mari à Silo. » Et justement, lors de ces grandes fêtes qui étaient des fêtes où c'était comme une obligation pour ceux qui voulaient plaire à Dieu, ils allaient se présenter au temple pour pouvoir adorer Dieu. C'est ce que tous les Juifs faisaient. Pourquoi ils allaient à Silo? C'est parce que c'est à ce moment-là, parce que c'était avant le temple, mais c'est à ce moment-là que se trouvait l'Arche de l'Alliance et la tente de la rencontre, qui était le précurseur du temple, ce qu'on appelle le tabernacle. Maintenant, regardez, Anne, elle y va fidèlement avec son mari et l'autre femme et les enfants, parce que regardez ce que ça dit au verset 6 et 7. « Sa rivale, pendant ses voyages, lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. » Elle n'est vraiment pas fine, hein? Elle n'est vraiment pas fine. Ça, c'est malheureusement, des fois, la nature humaine. Et ce n'est pas parce que c'est une femme qui est comme ça. Non. Non, non, non. Mais en même temps, elle n'est vraiment pas fine. Anne, elle ne la trouve pas fine du tout. C'est pour ça que ça dit que sa rivale, elle lui prodiguait des mortifications. Et la raison, c'était pour qu'elle s'irrite contre Dieu. Imaginez-vous. Et toutes les années, il en était ainsi. Donc, ça fait un certain nombre d'années que ça se passe, ces circonstances-là. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Et peut-être encore pire, parce que son cœur peut-être était ouvert, dans le sens qu'elle allait vers l'Éternel, et là, elle considérait sa situation en tant que femme, le fait qu'elle était stérile, qu'elle n'avait pas d'enfant. Et là, Pénina en profitait pour vraiment tourner, comme on dit, le fer dans la plaie. Et regardez ce que ça dit. « Alors Anne pleurait et Anne ne mangeait point. » Anne avait beaucoup de tristesse dans son cœur. et d'entendre sa rivale venir la narguer avec le fait qu'elle, elle avait des enfants, mais Anne n'avait pas d'enfants. Dieu était du bord de Pénina, mais Dieu n'était pas du bord de Anne. Dieu aimait Pénina, mais Dieu n'aimait pas Anne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Imaginez-vous comment que c'est. Et naturellement, Anne, elle le prenait très, très dur. Mais ce qu'on voit, c'est que Elkana et Anne avaient non seulement un même engagement spirituel, parce que là, ils allaient adorer Dieu ensemble, et malgré le fait que Anne se faisait rentrer dedans, depuis plusieurs années, Anne persistait à vouloir y aller quand même. Et ça montre le cœur de Anne, qu'elle avait un engagement envers Dieu, comme elle en avait un envers son mari. Parce qu'on voit aussi au verset 4 et 5 et au verset 8, le genre de relation qu'ils ont ensemble. Anne puis Elkana. Regardez qu'est-ce que le texte nous dit. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Donc, le sacrifice était fait, puis ensuite, du sacrifice, il y avait de la viande qui était distribuée pour que chacun puisse manger à sa faim. Et donc, il y en avait pour Pénina et pour tous ses enfants. OK? Regardez ce que ça dit de Elkana. Mais Elkana donnait à Anne une portion double. Il ne faisait pas ça avec Pénina. Il en donnait par contre pour que tout le monde soit rassasié. Mais avec Anne, même si elle était seule, il lui donnait une portion double. Pourquoi? Le texte nous dit. Car il aimait Anne. Est-ce que Anne le sentait? Le geste qu'il faisait était certainement un signe que je t'aime, je te donne une portion double. Mais regardez, ça dit, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Elkana, son mari, lui disait, et là, messieurs, écoutez bien, là, ne faites pas ce que Elkana faisait. Il disait à Anne, « Pourquoi pleures-tu? » Autrement dit, « Arrête de pleurer. Pourquoi ne manges-tu pas? Arrête de jeûner. Mange et arrête de pleurer. Réjouis-toi. Pourquoi ton cœur est-il attristé? » La bombe. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Mesdames, combien d'entre vous auraient été consolés par une telle remarque? Chérie, mais je comprends que tu n'as pas d'enfant. Tu pleures. Arrête de pleurer. Puis moi, tu m'as. Et moi, je ne vaux pas pour toi au moins 10 fils. Hein? Lui, il en a des enfants, là. Elle, elle n'a pas d'enfants. Lui, il n'a pas de rival. Elle, elle a une rivale. C'est quoi qu'il est en train de faire, là, lui?
Il arrête de magasiner une claque d'enfants.
Ouais, hein? C'est ça que vous auriez fait? C'est bon, ça. C'est bon. J'aime ça, des femmes de même, moi. Ah! Hein? Mais en même temps, pour venir à la défense d'Elkana, n'est-ce pas ce que nous, les hommes, on fait souvent? Hein? On donne une réponse intellectuelle à un problème du cœur. On essaye de raisonner avec nos épouses qui souffrent intérieurement. Il ne faut pas faire ça, les gars. C'est quoi qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire quand ta femme elle a de la tristesse dans son cœur? Voilà. Hein? Là, la plupart des gars disent, ben non, ça se peut pas, ça. Je vous le dis, c'est même une femme qui vous l'a dit ce matin. Dites rien. Lui, là, son erreur, c'est qu'il a pensé dire de quoi pour la consoler en la raisonnant. Il faut pas faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est rien dire. La prendre dans ses bras. Puis lui demander, pourquoi est-ce que tu as de la peine? Puis là, si elle vous dit, j'aimerais avoir un enfant, puis je ne peux pas en avoir, je suis stérile. L'Éternel m'a rendu stérile. Le texte dit, c'est l'Éternel qui l'avait rendu stérile. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il ne faut surtout pas dire, c'est pas grave, chérie. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que la Bible dit. La Bible, elle nous aide énormément quand on l'écoute. Parce que la Bible nous donne le conseil suivant. Puis elle ne parle pas juste aux hommes, mais c'est tellement bon pour nous autres. Parce que la Bible dit ceci, pleurez avec ceux qui pleurent. Souffrez avec ceux qui souffrent. Et là, ce qu'il faut faire, les gars, c'est demander au Seigneur, peux-tu m'aider maintenant à sentir la douleur de ma femme? Est-ce que tu peux ouvrir mon cœur? Puis est-ce que je pourrais pleurer avec elle? C'est si simple. Hein? Mais en même temps, si compliqué. Mais c'est si simple. Parce que tout ce que nos femmes ont besoin, c'est d'une oreille attentive, un cœur ouvert, sensible, et un cœur qui comprend qu'elles ont de la peine. Et qu'on n'a pas à essayer d'enlever cette peine-là, de lui dire, arrête de pleurer, commence à manger, et en plus, voici toutes les raisons pour lesquelles on devrait se réjouir. Dieu nous a donné ceci, nous a donné cela, nous a donné ceci, une maison, un auto, on a la liberté, on peut faire les voyages qu'on veut. T'sais, on a quand même le fun, on peut servir, on peut... Non. Juste pleurer. Prier. La deuxième caractéristique de Anne, c'est un cœur humble qui se tourne vers Dieu dans la prière. Et ça, c'est... Moi, je pense... Je veux dire... Ça, c'est une des caractéristiques, je pense, qui est la plus fondamentale d'une mère aujourd'hui. Et malheureusement, beaucoup de mères n'ont pas recours à la prière aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, par exemple, ou ils n'ont pas une dimension spirituelle dans leur vie. Et peut-être vous avez eu des mères qui n'avaient pas cette dimension spirituelle dans leur vie. Mais ici, on voit que Anne, elle se tourne vers Dieu dans la prière. Et n'oubliez pas, là, on est dans l'époque des juges, où il n'y a pas grand monde qui font ça, que ce n'est pas populaire, que ce n'est pas quelque chose d'intéressant. C'est comme si Anne a dit, je laisse tomber la balle et je demande à Dieu maintenant d'intervenir. J'arrête de me morfondre ou de chercher des stratégies à gauche, à droite, et là, je me tourne vers Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est réfugiée dans sa relation avec Dieu. Au verset 9 et 10, on lit ceci. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, c'est bien dit, hein? Anne, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs en présence de Dieu. Ensuite, au verset 11, on voit ceci. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, hein, elle est très spécifique dans sa prière, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Alors, Anne a décidé d'aller à Dieu. Pourquoi? Bien, une chose, c'est que son mari ne peut pas l'aider. Il ne semble pas la comprendre. Je pense qu'Anne, elle a compris ça. Et dans le fond, là, Anne se tourne vers la seule personne qui peut la comprendre. Et j'aimerais vous dire ceci, mesdames. La seule personne qui peut vraiment comprendre votre douleur, votre tristesse, c'est l'Éternel. C'est Jésus. Et je sais que vous aimeriez que votre mari puisse vous comprendre. Puis parfois, il y arrive, j'espère. Hein? Parfois, il y arrive. Parfois, il arrive à juste vous prendre dans ses bras et juste vous consoler. J'espère de tout mon cœur que ça arrive. Parce que c'est une bénédiction aussi. Mais en même temps, je vous dis, la seule personne qui peut vraiment comprendre votre cœur, vos aspirations pour vos enfants, la douleur que vous pouvez avoir parfois pour vos enfants, des choix qu'ils font ou des choix qu'ils ne font pas, ou des circonstances de vie qui arrivent, qui ne sont vraiment pas justes et ce n'est vraiment pas compréhensible. Et une des choses qu'on fait des fois, c'est qu'on essaie trop de comprendre ce qui ne fait pas de sens. Quand ça ne fait pas de sens, ça ne fait pas de sens. Et c'est là qu'il faut se jeter dans les bras de Dieu. Et c'est ce qu'Anne a fait. Et gloire à Dieu qu'elle l'a fait. Regardez la suite du texte, les versets 12 à 16. On voit encore là ici qui est Anne, dans le sens de son cœur, qui est humble, puis en même temps, un cœur qui se tourne vers Dieu, puis un cœur qui est honnête, qui est transparent. Elle nie pas qu'elle a de l'amertume, elle nie pas que ça va pas bien, elle nie pas que... mais elle ouvre son cœur à l'Éternel. Ça dit ceci, « Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. » Ça, c'est le sacrificateur Élie. « Anne parlait dans son cœur, imaginez-vous, et ne faisait que remuer les lèvres. » Je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'avait pas la force de parler à haute voix, un peu comme Sophie tantôt a partagé aussi quand elle a vécu un moment difficile, où là c'est comme on dirait qu'on n'a même pas la force de prier, mais en même temps c'est comme Dieu entend nos silences, Dieu entend les luttes de nos cœurs et tout ça. Puis ici c'est un peu ce qui est en train de se passer, où Anne, ça se passe à l'intérieur d'elle, il y a à peine ses lèvres qui bougent. Mais lui, Élie pensait qu'elle était ivre et il lui dit, mais un autre homme qui ne la comprend pas, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? » Je vous le dis, il y a juste l'Éternel qui peut vous comprendre. C'est vrai. Même ici, malheureusement, un serviteur de l'Éternel, ici, il est en train de dire une bêtise. Il est en train de faire un reproche. Sans même lui avoir parlé, sans même avoir vérifié, il va avec son idée préconçue. Ève, pourquoi qu'il pense qu'elle est Ève? Parce qu'elle remuait les lèvres, parce qu'elle était-tu face contre terre, puis là, complètement comme en train de justement répandre sa douleur devant Dieu, puis que là, elle était face contre terre comme ça, mais aussi, il a vu ses lèvres, donc fait que ça, elle devait se relever si ça arrivait. Mais il y a quelque chose dans la façon qu'elle était qui disait, « Elle a bu! » Ben, toi, dans le tabernacle, puis elle a bu. Ça n'a pas d'allure. Puis là, il est allé tout de suite la voir, puis il est allé la reprendre. Ça, c'est bien le fun, ça. Puis là, il lui dit ensuite, fais passer ton vin. Anne répondit, regardez, la qualité de son caractère. Non, mon Seigneur. Alors, elle lui répond avec respect. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Maintenant, Anne a aussi un cœur déterminé, et on voit ça dans les versets 17 à 20. Elle est une femme persévérante et patiente. Ça dit, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin en parlant de toute la famille, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, alors il eut une relation avec elle, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, et là c'est la signification du nom de Samuel, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Est-ce qu'on peut s'imaginer la joie de Anne? Pourquoi? Pour elle, c'est clair que c'est Dieu qui a répondu. Que la seule personne qui l'a comprise, la seule personne qui a eu la compassion pour elle, la seule personne qui s'est mise de son côté, finalement, ça a été l'Éternel. Et elle se tourne vers l'Éternel. Et si vous irez voir au chapitre 2, la prière de Anne, quand justement Dieu a répondu, c'est incroyable, c'est un bijou. C'est un bijou de lire ce texte-là, où c'est la prière de Anne, où là son cœur s'ouvre de reconnaissance, d'action de grâce à Dieu, parce que Dieu l'a visité. C'est fantastique. Mais en plus, Anne, on voit qu'elle est déterminée parce qu'elle a réussi à convaincre son mari qu'elle ne devait pas aller à Silo avant que l'enfant soit sevré. Alors pour elle, elle tenait parce qu'elle avait fait un vœu à l'Éternel, elle allait le consacrer, fait qu'elle dit, moi je ne retourne pas là tant que mon enfant sera pas prêt. Puis là, je vais prendre le temps que c'est nécessaire pour le sevrer, puis quand il va être sevré, il y en a qui pensent que c'est vers l'âge de 3 ans, d'autres pensent vers l'âge de 4 ans, bon. Alors, autrement dit, quand elle va avoir fini de l'allaiter, bien là, elle va aller à Silo, puis là, elle va le remettre à l'Éternel. Ça dit ceci, l'année suivante, Elkana se rendit de nouveau à Silo avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir le vœu qu'il avait fait. Mais Anne ne l'accompagna pas. Elle dit en effet à son mari, « J'attends que l'enfant soit sevré, alors je l'amènerai à Silo pour le présenter à l'Éternel et il restera là-bas pour toujours. » Son mari lui dit, « Fais comme tu le juges bon et attends de l'avoir sevré. » Que la promesse de l'Éternel se réalise. Anne resta donc à la maison pour allaiter son enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. Et on voit ensuite dans les versets 24 à 28 qu'elle a même réussi à convaincre le sacrificateur Élie de le prendre sous sa tutelle pour qu'il puisse être consacré à l'Éternel. Imaginez-vous dans des circonstances vraiment pas idéales qui étaient contre Anne, finalement, Anne a pu emmener, comme elle avait promis à Dieu, son fils pour qu'il soit au service de l'Éternel. Et ça dit ensuite au chapitre 2, versets 18 à 21, que Anne retournait à chaque année voir Samuel et elle lui emmenait avec elle un vêtement de lin pour son fils. Alors elle restait en contact et elle a continué à être impliquée dans la vie de Samuel. Et on sait ce que Samuel est devenu. Hein? Il est devenu un homme de Dieu. Dieu s'est servi de lui pour justement son peuple. J'aimerais terminer ce matin avec un texte d'un témoignage de quelqu'un qui est au Québec, qu'on connaît bien, qui s'appelle Stéphane Laporte. Plusieurs connaissent Stéphane Laporte? Il est impliqué avec André-Philippe Gagnon, humoriste qui écrit ses textes, il était aussi à Star Academy comme un juge à un moment donné, puis ainsi de suite. Mais il écrit ce texte-là en 2008. Et vous allez voir que sa mère avait cette caractéristique d'une femme déterminée. Il a intitulé le texte « Aller à l'école des enfants normaux ». Et voici ce qu'il dit. « Ma mère et moi attendons devant le bureau de la directrice de l'école Notre-Dame-de-Grâce. Je viens d'avoir 6 ans. J'ai fait ma première année dans le sous-sol chez Mme Bryan. En septembre prochain, le temps sera venu d'aller dans la grosse école, la vraie, l'école publique en face de chez nous. Comme mon grand frère, comme ma grande sœur, du moins je l'espère. Car j'ai les tendons trop courts. Je marche sur la pointe des pieds, les genoux par en dedans, le bassin de travers. À la CECM, ils ont dit que pour que j'aie le droit d'aller à l'école des enfants qui marchent bien droit, il faut que la directrice donne son accord. Sinon, il me faudra aller à l'école des handicapés. Madame Lapierre nous fait entrer dans son bureau. Je sens qu'elle me regarde marcher. Alors je marche encore plus croche. C'est toujours comme ça quand je suis observé, quand je me sens observé. On s'assoit. Ma mère lui parle de moi. Elle lui montre mes beaux bulletins de première année. Elle lui dit combien je suis fin. Je ne sais pas pourquoi. Et intelligent. Madame Lapierre me demande si j'aime l'école. Je lui dis que oui et que j'aimerais que l'école m'aime aussi. Ça la fait sourire. Puis elle reprend son air sérieux. Elle nous explique qu'il y a beaucoup d'élèves par classe, jusqu'à 35 parfois, que les profs n'ont pas le temps de veiller sur eux individuellement, que dans les corridors et les escaliers, tout le monde court, que ça se pousse, que je risque de tomber et de me faire mal, que l'école ne veut pas être responsable s'il m'arrivait quelque chose, que je serais peut-être mieux d'aller à un endroit où tout serait pensé en fonction de mes difficultés, une école d'handicapés. Ma mère demande à la directrice si elle peut lui parler seule à seule. Je vais attendre dans le couloir, dans le corridor. Je ne sais pas trop ce qui va m'arriver. Je n'ai pas le goût d'aller à l'école des handicapés. Je n'ai rien contre eux. Je serais bien mal placé. Mais je ne comprends pas pourquoi on les traite à part. Pourquoi on ne me traiterait pas à part aussi? Pourquoi on me traiterait à part aussi? Pourquoi on ne peut pas tout faire partie du même monde? J'ai peur que si je ne vais pas à la même école que les autres, que les normaux, ma vie ne sera plus jamais la même. Que je vais être mis de côté, que je serai pour toujours catalogué handicapé, alors que je suis un taquin, un curieux, un lecteur de BD, c'est des bandes dessinées, un collectionneur de cartes de hockey, un bâtisseur de bâtiments en carton, un dessinateur de bonhommes, un champion de traîne sauvage, un mâcheur de gomme ballon, un fan du Canadien et de Bantam, un mangeur de frites, un auteur de théâtre de marionnettes, un joueur de ballon, un frère, un fils, bref, je suis un petit garçon. Je veux rester un petit garçon. Je ne veux pas être un handicapé. Les gens pensent que je le suis déjà. Pas du tout. Ce n'est pas notre condition physique qui fait de nous des personnes handicapées. C'est la société qui décide de nous résumer ainsi, de nous désigner ainsi, comme si on n'était que ça. C'est plus facile. Ça va plus vite. Les enfants normaux à droite et les enfants pas normaux à gauche. C'est quoi d'abord un enfant normal? Il n'y en a pas d'enfant normal. Je veux marcher dans les traces de mon frère et de ma sœur, même si j'y marche croche. J'ai une boule de peine dans la gorge. Que vont-ils faire de moi? Madame Lapierre et ma mère sortent du bureau. La directrice me passe la main dans les cheveux. Bienvenue dans ton école, Stéphane. Je suis content. Je ne sais pas ce que maman a pu lui dire, mais ce que je sais, c'est que ça devait être beau et convaincant. Ma mère vient de me donner la vie une seconde fois, la vie que je veux, celle avec les autres, celle avec tout le monde. Merci, maman, et merci, Madame Lapierre. Je vous en serai pour toujours reconnaissant. Si on était tombé sur une directrice plus stricte, plus rigide, ou mal lunée, qui sait ce que serait ma vie aujourd'hui? Et à l'émission « Tout le monde en parle », 14 avril dernier, Stéphane Laporte a dit ceci pour compléter. Si je l'ai, je l'ai-tu, oui, ici. Non, je ne l'ai pas. Ah, je ne l'ai pas. Mais je vais le résumer, malheureusement. Je vais le résumer. Ce qu'il a dit à l'émission Tout le monde en parle, et peut-être certains d'entre vous l'avaient vu. Mais il a dit ceci. Il dit, j'aime mieux avoir sorti de ma mère, tout croche, avec mon handicap, qu'à travers n'importe quelle autre mère au Québec, avec un corps parfait. Savez-vous pourquoi qu'il a dit ça? Parce qu'il dit, ma mère, elle m'a aimé. Et j'ai jamais manqué d'amour avec ma mère. Je suis heureux d'être comme je suis et d'avoir la mère que j'ai eue. Prions Dieu ensemble. Seigneur Jésus, merci de nous avoir aimés, toi, autant. Merci, Seigneur, d'être là pour chacun de nous. Seigneur, certains d'entre nous avons eu la bénédiction d'avoir une mère qui était semblable à Anne. Une mère qui avait un cœur engagé envers toi, engagé envers son mari, qui avait aussi un cœur humble, un cœur qui s'est réfugié en toi, Seigneur, face à des choses qui étaient épouvantables ou incompréhensibles, trop grands pour les épaules d'une seule personne. Et elle avait un cœur humble qui a cherché son refuge auprès de toi. Et Seigneur, certains aussi d'entre nous ont eu une mère qui était déterminée, autant que Anne, autant que la mère de Stéphane Laporte. Et ces mères-là ont fait toute une différence dans nos vies. Mais Seigneur Jésus, tu vois aussi que certains d'entre nous n'ont pas eu un tel héritage. Ou tu vois, Seigneur, certaines mères qui sont aux prises présentement avec des choses qui les attristent énormément, et qu'il n'y a pas personne autour d'eux qui peut les consoler. Il n'y a pas de parole humaine qui existe qui peuvent consoler leur cœur. Est-ce que toi, Jésus, tu les comprends, ces moments-là? Est-ce que toi, Jésus, tu comprends chacun de nous qui peut-être avons souffert de manque de présence d'une mère ou d'amour d'une mère? Quelque chose de cet égard-là. Tu vois aussi, Seigneur, le cœur des mères ce matin qui aimerait tellement pouvoir être une mère semblable à Anne, avoir un tel cœur. Jésus, est-ce que toi, tu peux venir à leur côté pour les soutenir et leur donner la force de passer à travers les défis auxquels ils font face? Certaines ont le défi d'être maman et papa en même temps, Jésus. Tu vois comment c'est pas facile. Est-ce qu'ils peuvent se tourner vers toi aussi, Seigneur? On voudrait juste ce matin, Seigneur, te dire que c'est vers toi que nous voulons nous tourner. Et nous te demandons ton assistance et ton aide, en sachant que tu as un cœur de mère, que tu comprends, que tu aimes et que tu peux intervenir. Tu peux faire des miracles, Seigneur. Est-ce que nos cœurs peuvent le croire, comme Anne? Que toi, tu peux faire ce que la médecine ne peut pas faire, ce que les hommes ne peuvent pas faire? Ô Jésus, augmente notre confiance en toi ce matin. Nous nous tournons vers toi. À toi la gloire. Amen.